Apocalypse chapitre 12. Nous allons lire le seul verset 11. Est-ce que nous pouvons lire ensemble? 1, 2, 3. Ils l'ont vaincu. Et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Est-ce que nous pouvons encore le répéter une deuxième fois? Est-ce que nous pouvons le répéter pour une troisième fois, célébrer le Seigneur? Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Nous pouvons nous rasseoir. C'est un privilège pour moi de me tenir au devant de vous ce matin. Je réponds au nom de Hardy Bolé, 1000 ans de serviteur dans cette église. Je suis heureux de me tenir au devant de vous ce matin. En même temps, c'est une grande responsabilité qu'un privilège. Et je bénis le corps pastoral pour cette confiance qu'il m'accorde de me donner, d'apporter la parole de Dieu ce matin. J'espérais que le pasteur Camille ne soit pas là. Si vous savez combien c'était compliqué des fois de prêcher devant ses aînés, je me suis dit au moins le pasteur André sera là, c'est moins de stress, papa pacifique, et lui, il fallait qu'il vienne aujourd'hui. Ça va, je sais qu'il se tient là comme intercesseur aussi, et donc les choses seront comme Dieu les a prévues. Alors Apocalypse, ce livre que nous venons de lire, ce livre dans lequel nous avons tiré le passage de ce matin, c'est le dernier livre du Nouveau Testament, vous le savez. Et selon le préambule, ce livre a été écrit par un prénommé Jean. Le livre d'Apocalypse est aussi appelé le livre des Révélations. Mais c'est aussi appelé « Révélation de Jésus-Christ ». Pourquoi ? Pour la bonne et simple raison que lorsque vous lisez le chapitre 1, on dit que c'est la révélation de Jésus-Christ qu'il a fait connaître à son serviteur, à ce serviteur. Alors, ce livre fait étalage de beaucoup de débats dans le milieu théologique, vous le savez. Et des fois, nous avons tendance même à oublier le but pour lequel ce livre a été écrit. Et ce matin, je ne m'irai pas entrer dans plusieurs choses, je m'irai juste donner trois buts, un but principal, mais deux buts secondaires. Un but principal, un but dans lequel est tiré les deux autres buts secondaires. Il peut y avoir plusieurs autres buts secondaires, mais je vais en donner deux ce matin, et un but principal. Le but principal de ce livre, c'est ce que nous retrouvons au chapitre 1, verset 1. La Bible dit, c'est pour qu'il montre à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. La raison pour laquelle Christ donne cette révélation à Jean-Baptiste, c'est pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. J'aime beaucoup Christ. Si il était leader de ce monde, il ne serait pas comme certains de nos leaders qui souffrent de l'insécurité, de pouvoir partager leurs informations ou leurs visions. Vous savez, les leaders de ce monde, nous-mêmes, nous savons combien elle peut être précieuse une information, non? Et des fois, on est dans l'insécurité de pouvoir partager une information parce que nous disons que non, si je partage cette information, ces gens pourront être comme moi. Ils peuvent faire la même chose que moi. Mais Christ n'est pas là. Et ce fait de penser comme ça que les gens deviendront comme moi parce que je partage cette information, c'est une arme que Satan plutôt a utilisée pendant longtemps pour perdre l'Église. Vous vous rappelez même dans Genèse, il a utilisé la même arme avec Ève et Adam. Il leur dit qu'il vous a caché ces choses. Il ne veut pas que vous puissiez manger de ces fruits. parce que le jour que vous en mangerez, vous deviendrez comme lui, vous deviendrez comme Dieu. Il aime ça. Non, garde ton projet, n'en parle pas. Si tu en parles, tout le monde peut faire la même chose que toi. Tout le monde peut être comme toi. Mais il y a une chose que nous devons savoir, c'est que ce n'est pas une information qui fait de nous des gens importants, ou ce n'est pas une information qui fait de toi une personne importante, mais c'est ce que tu fais de l'information qui fait de toi une personne importante. C'est notre capacité d'utiliser une information qui fait de nous des personnes importantes. Et donc Christ donne cette révélation pour montrer à ses disciples, pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Et j'aime beaucoup ce que Christ fait, ce que Dieu fait lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous lisons Ésaïe, lorsque nous lisons les livres de Malachie, et même lorsque nous lisons les livres de Job. Nous avons comme l'impression que Dieu aime partager ses informations, il aime partager ses révélations. Pourquoi? Parce qu'il veut faire savoir à ses serviteurs ce qui va arriver. Et j'aimerais fortifier quelqu'un cet après-midi, cet avant-midi plutôt, excusez-moi, que les choses que Dieu t'a fait connaître d'avance, comme il est écrit dans ces chapitres et cette portion que nous venons de lire, ces choses doivent arriver. La deuxième des choses, ou le deuxième but, ou encore le premier but secondaire, c'est qu'il donne cette révélation à Jean pour le rassurer dans ses afflictions. Il nous donne une révélation pour nous assurer dans nos afflictions. Lorsque vous lisez au premier chapitre, au verset 9, où Jean est en train de dire ceci: « Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persécution en Jésus, j'ai été dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. » Jean se retrouve dans l'île de Patmos, pas par plaisir, pas par tourisme. Il ne se retrouve pas à l'île de Patmos parce qu'il voulait avoir un moment de retraite pour recevoir des révélations. Il se retrouve dans l'île de Patmos parce qu'il est persécuté. Il souffre de la persécution. Vous savez, selon l'histoire, Jean, l'apôtre Jean qui a écrit ses livres selon la tradition, et ce même Jean, fils de Zébédée, qui a écrit l'évangile selon Jean. Et l'histoire dit qu'il a été trempé dans l'huile, mais il a survécu. Et probablement, il se retrouve dans l'île de Patmos après cet événement. Ils n'ont pas pu le tuer, alors il se retrouve là, exilé, comme emprisonné. Dans ses tribulations, Dieu décide de lui révéler des choses qui doivent arriver. Le troisième but de ce livre, le deuxième but secondaire, c'est de nous faire connaître que nous l'avons déjà vaincu. Et c'est ça le terme que nous allons exploiter cet avant-midi. Nous l'avons déjà vaincu. Alors, le passage que nous venons de lire d'Apocalypse au chapitre 12, lorsque vous commencez au début, vous allez constater qu'il y a, après que l'ange fit faire sonner, la septième trompette, il y a eu comme une sorte de guerre. Il y a eu une guerre qui s'est déclenchée entre Satan et l'ange Michaël. Et la Bible dit au chapitre, au verset 8, lorsque nous évoluons au verset 8, la Bible dit que l'ange Michaël l'a vaincu. Et lorsque nous allons à la fin, on nous parle de représailles. L'ange va s'attaquer à la progéniture de la femme qui avait accouché d'un fils à cause de son échec. Et la Bible dit que ce genre auquel Satan s'est attaqué, le dragon ou le serpent ancien, ce sont les gens qui avaient les témoignages de Christ et les gens qui gardaient les commandements de Dieu. Ils gardaient les commandements de Dieu et ils avaient en eux le témoignage de Christ. Et Satan s'est décidé d'attaquer ces gens-là. Mais lorsque nous lisons, nous avons comme l'impression que Jean commence à parler d'une guerre qui a commencé et il parle de la victoire. Quelque part au milieu, il s'arrête pour donner une information très importante et dire, vous l'avez vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de votre témoignage. Et après, il continue, il parle de la suite des guerres. Comme pour dire, lorsque nous avons lu au début, vous vous souvenez, les versets que nous avons lus, c'est que, plutôt dans le contexte, nous avons dit, il montre à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. Et donc, lorsque Dieu nous parle de cette victoire ou de ces choses, il ne nous parle pas des choses qui peuvent arriver. Il nous parle des choses qui doivent arriver. Et lorsqu'il parle de cette victoire, ce n'est pas une victoire qui peut arriver. C'est une victoire qui doit arriver. Alors, ce matin, j'aimerais parler de cette victoire dans deux sens selon que Jean est en train de l'exploiter ici. Jean est en train de dire que cette victoire, nous l'avons héritée. Nous ne cherchons pas à obtenir cette victoire. Nous ne cherchons pas à gagner cette victoire. Cette victoire, nous l'avons héritée. Pourquoi? Parce qu'il dit, ils ont vécu à cause de ça, de l'agneau, pas à cause de nos efforts, pas à cause de ce que nous faisons, pas parce que nous venons à l'église chaque dimanche, pas parce que nous donnons nos offrandes. Nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est une victoire héritée. Et j'aime beaucoup dans 1 Samuel 17, c'est que David avait compris au fait. David va se battre contre Goliath. Avant, on lui propose des armes. Il refuse de prendre ses armes. Et lorsqu'il s'avance vers Goliath, écoutez, c'est que David est en train de dire. David dit, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je couperai ta tête. Il ne dit pas à Goliath que je vais me battre contre toi. David va se battre contre Goliath et est conscient qu'il l'a déjà gagné. David sait que tu es un cadeau tel que tu es là, Goliath. L'Éternel te livrera entre mes mains. Je ne vais pas me battre. Tu es déjà livré, Goliath. Et ça, c'est quelque chose que nous devons comprendre en tant que chrétiens. Vous savez, quelquefois, nous pensons que nous avons la victoire à cause de ce que nous faisons, à cause de notre activisme dans l'œuvre de Dieu. Non. Et c'est là, d'ailleurs, le terme que nous utilisons souvent, Goma Tumiki et Mungu. Tumiki et Mungu. C'est bien, ça a l'air d'être bien. Ça... Mais je vais juste nous dire quelque chose. Nous ne travaillons pas pour Dieu, nous travaillons avec Dieu. Dieu. Lorsque tu vas dans un champ, si tu constates que Dieu n'est pas là avec son outil de travail, en train de faire la même chose qu'il te demande de faire, c'est que tu n'es pas dans le champ de Dieu. Dieu ne cherche pas des ouvriers, il cherche des co-ouvriers, des gens avec qui il va travailler, des gens qui vont travailler comme lui. Et donc, cette victoire, nous ne l'avons pas à cause de ce que nous faisons. Cette victoire, nous l'avons parce qu'il a décidé de nous donner la victoire. Alors, certaines personnes peuvent se poser la question. Hardy, tu dis que cette victoire nous a été donnée, c'est notre héritage. Comment ça s'est fait que certains chrétiens échouent? Pourquoi? Même lorsque nous lisons la Bible, nous lisons quelque part dans certains combats, certains hommes de Dieu ont échoué. Pourquoi est-ce que ça arrive? C'est vrai que des fois, tant qu'enfant de Dieu, il nous arrive de tomber, il nous arrive d'échouer. Mais nous échouons pour des raisons. Il peut y avoir plusieurs raisons, mais je vais en donner deux. Premièrement, nous échouons à cause de la déchéance dans notre marche avec Dieu. Nous n'héritons pas, nous ne jouissons pas de notre héritage qui est la victoire à cause de la déchéance dans notre marche avec Dieu. Par déchéance, comprenons la compromission, l'infidélité, la désobéissance, tout ce que nous connaissons comme péché. Alors, lorsque nous sommes dans ces choses, il nous arrive d'échouer en tant qu'enfants de Dieu. La Bible parle dans Josué, au chapitre 7, d'une histoire, vous savez, je vais juste raconter l'histoire. Josué vient franchement au chapitre 6, on parle de Josué qui vient de vaincre, rapporter une grande victoire contre Jéricho. Et après, il se dirige vers une autre ville, une petite ville, pas très importante en termes d'armée, pas très importante en termes de force. Et Gédéon va se dire, ok, d'accord, nous allons combattre cette ville. Et arrivé là-bas, Gédéon va perdre la guerre. Mais la Bible dit que Gédéon va perdre la guerre à cause d'un certain Aka qui s'est permis d'aller toucher à l'interdit. Vous vous rappelez, Dieu avait demandé, lorsque vous allez détruire, assiéger Jéricho, vous allez vouer la ville en interdit. Ça veut dire que vous allez tout tuer. Vous allez tuer les femmes, les enfants, les animaux. Vous allez tout brûler. Vous n'allez rien prendre. Vous allez consumer la ville. Un certain Aka s'est permis de prendre quelque chose. Et à cause de lui, Gédéon plutôt, Josué, a enregistré des défaites. Pourquoi? À cause de la déchéance. Bien-aimé, à chaque fois que nous laissons la déchéance inviter dans nos vies, nous renonçons à notre héritage qui est la victoire. À chaque fois que nous laissons la compromission prendre place dans nos vies, même si ça peut paraître en réalité que nous sommes en train de vaincre, mais en vérité, nous sommes perdants. Alors, la deuxième chose qui fait à ce qu'un enfant de Dieu, celui qui est destiné à la victoire, celui qui a hérité la victoire, puisse perdre, c'est la maturité ou encore le manque de connaissances de Dieu. L'immaturité. La Bible dit dans Galates 4, verset 1, « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère à rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. » L'immaturité fait à ce que nous ne puissions pas jouir de notre héritage, fait à ce que nous puissions échouer malgré que nous sommes des héritiers. Mais cette immaturité est due à quoi? Cette immaturité est due au manque de connaissances des dieux. Dans Osée 4 et 6, la Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Lorsque vous lisez les contextes de Osée 4, vous commencez par Osée 3 jusqu'à Osée 5, vous comprenez qu'on ne parle pas vraiment, même si nous en parlons dans nos églises, de la connaissance scientifique, de la connaissance des choses, de ces mondes. Non, la Bible parle dans le contexte selon Osée que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance des dieux. La preuve en est que je l'ai déjà dit ici encore, qu'il y a des gens qui sont intelligents, qui ont étudié, qui ont des doctorats, mais qui périssent. Alors qu'ils ont tout ça. Qu'est-ce qui pousse le manque de connaissances des dieux? C'est notre manque de connexion avec ces dieux. Des connexions avec sa parole, avec ce qu'il dit. Et lorsqu'on parle des connaissances, on ne parle pas d'une information sur Dieu. On parle d'une relation avec Dieu. Mon peuple périt parce qu'il lui manque une relation intime avec moi. En d'autres termes, je peux le dire. Donc, des choses peuvent faire assez que, en tant qu'héritier, nous ne puissions pas jouir de notre héritage. La première des choses, c'est la déchéance. Et la deuxième des choses, l'immaturité ou manque de connaissance de Dieu. La Bible dit que mon peuple périt, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Le deuxième sens dans lequel l'apôtre Jean aborde la victoire dans cette portion d'écriture, c'est qu'il est en train de dire que cette victoire, nous l'avons, nous devons la posséder. C'est une victoire possédée. Nous devons posséder cette victoire. Car il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Il nous parle en quelque sorte de notre rôle à nous, de ce que nous faisons dans cette victoire. Pour bien jouir de cette victoire, il dit, à cause de la parole de notre témoignage. Nombre chapitre 33, 53 dit, vous prendrez possession du pays et vous vous y établirez, car je vous ai donné le pays pour qu'il soit votre propriété. Dieu donne Cana à Israël. Il dit, c'est un don. Lorsque nous lisons Genèse, Dieu dit à Abraham, je t'ai donné cette terre. Mais lorsque il délivre Israël de l'Égypte, il amène Israël dans les déserts. Israël veut entrer à Cana. Il dit à Israël, tu dois aller prendre possession de ce que je t'ai donné. Ça veut dire que lorsque Dieu nous donne quelque chose, nous devons combattre. Pas parce que le combat nous aide à obtenir ce que Dieu nous a donné. Le combat, à ce moment-ci, ça devient comme un témoignage de foi. Le combat va juste nous permettre d'exposer ou de laisser Dieu étaler, manifester sa puissance. Il demande à Moïse, tu vas délivrer mon peuple de la main de Pharaon. Mais il dit, je vais endurcir le cœur des pharaons. Pourquoi? Pour qu'il y ait combat, pour qu'il y ait affrontement. Dieu veut juste à ce que lorsque Israël va quitter l'Égypte, que l'Égypte puisse redouter le Dieu d'Israël. Ce n'est pas question de toi, c'est question de ton Dieu. Le combat ne vient que pour démontrer la puissance de ton Dieu. Alors il dit, vous prendrez possession de ces pays parce que je vous ai donné cela en héritage. La question ici est de savoir comment est-ce que nous pouvons prendre possession de notre héritage. Alors, des façons. Il peut y avoir plusieurs façons, mais selon ce passage que nous avons lu, il nous donne des manières de prendre possession de notre héritage. Premièrement, il est en train de dire, il dit, c'est par les témoignages. Vous l'avez vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de votre témoignage. C'est que j'aime y parler de la parole de votre témoignage. Je n'aurai pas le temps de nous parler de ça, ça serait très long enseignement. Il nous parle de témoignages et de la parole de notre témoignage. Il y a des choses. Ça veut dire que nous devons considérer les témoignages comme une vie avant d'être une parole. Mais il dit ici, vous l'avez vaincu à cause de la parole de votre témoignage, parce qu'il est important que vous puissiez déclarer ce à quoi vous avez cru. Parce qu'il est important que votre cœur, des fois vous êtes découragé, des fois vous passez par des moments difficiles, et déclarer que je l'ai vaincu, et déclarer que j'ai Dieu à mes côtés, et déclarer que je suis plus que vainqueur, c'est très important pour ton cœur. C'est très important que nous puissions nous dire à nous-mêmes que je suis fort, je t'ai appelé pour réussir, je t'ai appelé pour aller de l'avant. J'ai cru à cela, j'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur et je le déclare. Je n'ai pas honte de le dire. Écoutez ce que l'apôtre Paul est en train de dire à Romains chapitre 1, verset 16. Il dit, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Et lorsqu'il parle de salut de quiconque croit ici, c'est dans le sens d'une délivrance que nous célébrons. Une délivrance que nous célébrons. Comment prendre possession de notre héritage? En déclarant, en témoignant. La deuxième façon de prendre possession de notre héritage, c'est de renoncer en soi-même. Renoncer à soi-même. Renoncer à soi-même. Il dit, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Combien la crainte de la mort nous amène à faire des choses des fois abominables. À cause de la crainte de la mort dans toutes ses formes, la mort financière, la mort matérielle, la mort en termes de connaissances. À cause de la mort, nous sommes prêts à nous compromettre. Nous sommes prêts à nier Dieu. À cause de la mort, parce que nous craignons la mort. La Bible parle dans Des Rois au chapitre 6 de cette histoire de deux femmes qui, à cause de la peur de la mort, sont allées jusqu'à manger leur fils. Elles avaient peur de faim. Elles ont décidé, elles ont planifié de manger leur propre enfant. Vous imaginez? Pourquoi? Parce qu'elles avaient peur de la mort. Parce qu'elles ne voulaient pas mourir de faim. Je ne sais pas, je parle à qui ce matin. Quelles sont les choses que nous faisons? Combien nous sommes prêts à faire tuer les gens? Combien nous sommes prêts à empoisonner les gens? Combien nous sommes prêts à détruire le mariage des autres à cause de la peur de la mort? Combien nous sommes prêts à faire des choses aussi abominables à cause de la peur de la mort? Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. J'aime ce que Christ est dit dans Jean 16, 33, il dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous auriez des tribulations dans ce monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Il ne nous a pas promis seulement des jours heureux. Il nous a fait savoir que nous aurons des tribulations dans ce monde. Mais dit, n'aie pas peur, j'ai vaincu. J'ai vaincu le monde. Je ne sais pas beaucoup parler fort de temps. J'aimerais à ce que nous puissions passer quelques instants dans la prière. Au deuxième culte, j'essaierai encore de... Au troisième culte plutôt, j'essaierai encore d'apporter beaucoup plus de détails. Mais je mérite quand même que nous puissions passer un peu du temps dans la prière. Vous savez, Christ dit, il nous enseigne plutôt l'amour qui nous donne la victoire. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Il nous a aimés à la croix. Il nous a aimés, raison pour laquelle il a donné sa vie. Nous l'avons déjà vaincu. Vous l'avez déjà vaincu. Il n'a pas cherché à utiliser des armes sophistiquées de son époque pour combattre les diables. Lorsqu'il se retrouve dans les déserts, ce qu'il a fait, il a renoncé au pain. Il a renoncé à la gloire. Il a renoncé au pouvoir. Tu veux renoncer à quoi ce matin? Pour l'amour de Dieu, pour l'amour du prochain. Pour vaincre le monde, pour vaincre les systèmes de ce monde, pour vaincre le péché et la mort, il a renoncé à sa vie. Du reste, je m'étonne toujours quand je lis ces passages, il dit, il nous enseigne pour vaincre l'impudicité, il faut fuir. Il faut fuir. Deux choses à retenir ce matin. que cette victoire est héritée. Nous devons garder cela dans nos têtes et dans nos cœurs. Cette victoire est héritée. Deuxième chose, cette victoire, nous devons la posséder. J'aime beaucoup le docteur Atom, s'il parle dans une de ses chansons de quelque chose qui m'a beaucoup béni. Et pendant que j'ai préparé ces messages, j'ai préparé le message avec cette chanson. Il dit que lorsque Dieu nous donne la victoire, le Saint-Esprit vient nous révéler le plan de l'ennemi. Il dit, en réalité, nous constatons le plan de l'ennemi parce que Dieu nous a donné la victoire. Avoir, savoir que nous combattons dans la victoire, savoir que cette victoire, nous l'avons héritée, change notre perspective du combat. Ça change notre façon de voir l'adversité, de considérer l'adversité. Alors il dit, ce qui colloie longue, si moli moi la qui si ma projet n'a pour l'élé. Oh, juste temps de répit, et le récupère en plus des plans, y'a moulili. Baye naba, stratégie. Ils viennent avec de nouvelles stratégies. Somme 118 dit, David parlait de ça, il dit, mes ennemis m'environnent comme des abeilles. Au nom de l'Éternel, je les taille à pièces. Ils vont encore changer des stratégies. Mais au nom de l'Éternel, je vais les tailler à pièces. Au fait, lorsque l'ennemi change des stratégies 1000 fois, 2000 fois, nous avons qu'une seule stratégie, le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel est tout ce que nous avons comme stratégie. Balengeli mitambo nanko kasinga na tatoli Yahweh osa pole nanga nanko bangelo kote eno Yahweh osa Yahweh osa elonga nanga elonga nanga elonga nanga Nako bangelo kote eloko Yahweh osa Yahweh osa Baba makasi nanga makasi nanga makasi nanga Nako bangelo kote Nako bangelo kote Est-ce que tu peux te lever en même temps nous allons prier notre Dieu ce matin. Je ne sais pas les situations par lesquelles tu es en train de passer à ce moment. Je ne sais pas les ennemis qui t'environnent. Je ne connais rien de ta vie. Du reste, Dieu ne m'a pas donné des détails par rapport à quelqu'un. Mais je me réduis plutôt à quelqu'un qui passe par des moments difficiles, qui voit les combats être acharnés dans sa vie, qui voit les ennemis venir avec plusieurs des stratégies. Ne crains rien, ne crains rien. La victoire, tu l'as héritée.